Un jour de tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Rassemblés en ce lieu, nous louons notre Père. Voici l'Esprit de Dieu, nous sommes dans sa lumière. Un jour, dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Jésus est parmi nous, l'un prie et l'autre pleure. Son regard est si doux, sa joie remplit nos cœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Bientôt nous partirons, nous serons réunis. Sans fin nous le verrons, nous louerons Jésus-Christ. Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs.
Bonjour à chacun, à chacune, cordial, bienvenue pour ce culte que nous voulons rendre à Dieu. Vous êtes peut-être de passage ce matin, visiteurs, ben sentez-vous à votre aise, vous êtes à la maison, les uns et les autres, bienvenue. Nous voulons vivre un culte ensemble, je vous en dirai quelques mots ensuite. J'aimerais aussi saluer Valérie Duval-Poujol. Valérie était avec nous hier pour la belle et grande journée œcuménique sur ce thème très stimulant de la Bible comme frein ou comme moteur à l'œcuménisme. Je pense, sans spoiler trop ce qui a été dit, que nous avons retenu que la Bible était un vrai catalyseur, un moteur pour vivre nos relations entre chrétiens sur la commune de Mérin pour ce qui nous concerne et j'espère plus largement. Une très belle journée en tous les cas. J'aimerais lire le psaume 138. Seigneur, je veux te louer de tout mon cœur. Devant les puissances des cieux, je te célébrerai par mes chants et je m'inclinerai devant le temple qui est le tien. Je louerai ton nom à cause de ta bonté et de ta vérité, car tu as fait plus que tenir ta promesse, plus que ce que l'on attendait de toi. Quand je t'ai appelé, tu m'as répondu. Tu m'as rempli de courage et de force. Seigneur, tous les rois de la terre te loueront quand ils auront entendu ce que tu dis. Ils célébreront tes actions en chantant. La gloire du Seigneur est immense. Si haut que soit le Seigneur, il voit les personnes qui sont humbles. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Si je marche au cœur de la détresse, tu me rendras la vie malgré la colère de mes ennemis. Tu étendras la main et ta main droite me sauvera. Seigneur, tu fais tout pour moi. Toi dont l'amour dure toujours, n'abandonne pas maintenant ceux que tu as créés de tes propres mains. Ce matin, nous nous retrouvons devant le Seigneur. Nous nous retrouvons les uns les autres. Nous avons diversité de parcours, diversité de circonstances. Nous venons peut-être le cœur lourd, chargé. Cette semaine a peut-être été ébouriffante à plus d'un titre. Et nous nous retrouvons ensemble. Et nous disons à celui qui nous aime, celui qui nous connaît, nous lui disons, Seigneur, tu fais tout pour nous. Il prend soin de nous. Et nous voulons nous présenter devant lui avec cette conscience de son amour et de sa grâce. C'est l'un des sens du culte. Ce culte, nous allons le vivre avec quelques annonces déjà. Johan s'approchera dans quelques instants. Nous allons avoir un temps de louange avec l'équipe musicale. Merci pour ce que vous avez préparé. Puis Valérie ouvrira avec nous la parole de Dieu. J'espère que nous aurons des oreilles ouvertes et des cœurs ouverts pour recevoir ce que le Seigneur tient en réserve pour nous. Et enfin, nous aurons un temps de rassemblement autour de la table du Seigneur où nous nous souviendrons de ce qu'il a fait en notre faveur avant d'être envoyés dans une nouvelle semaine. Johan les annonce.
Bonjour à chacun. Vous avez été accueillis ce matin par Philippe. Mais l'accueil n'est pas que le dimanche, vous avez aussi toutes sortes d'activités durant la semaine pour nourrir votre âme, pour nourrir votre esprit, nourrir cet esprit de communauté. Ça commence déjà aujourd'hui pour la génération KT, donc c'est les 11-15 ans, avec un accueil spécial ce matin dès 9h30. Donc chaque premier dimanche du mois, il y a le KT du dimanche, où les jeunes sont invités dès 9h30 pour un petit déjeuner. Ensuite, ils participent au début du culte pour la louange. Et puis dès que les autres groupes, donc les potes descendent, eux descendent aussi avec leur moniteur pour un petit moment de partage autour de la Bible. Et puis, si je ne me trompe pas, ils s'occupent du café à la fin. Donc ça vous dit comme ça, comme quoi il y a le café qui est aussi servi après le culte. Comme ça, ça fait une annonce de plus de passer. Chronologiquement, durant cette semaine, donc mardi 3 octobre, entre 12h et 13h30, il y a un moment de jeûne et prière à la chapelle, qui est juste à côté. Mercredi 4 octobre, à 20h, le groupe de jeûne, 15-25 ans, CTT. Ensuite, la semaine prochaine, dimanche 8 octobre, le conseil vous invite à une séance d'information après le culte. Après un petit moment de pause, on vous propose une séance d'information par rapport à la situation de nos pasteurs. Vous êtes invité bien sûr à cette séance et il y aura un acumérin qui passera cette semaine pour vous le rappeler. Ensuite, dimanche 15 octobre, c'est aussi un grand moment de convivialité et de moment intergénérationnel. Nous vous proposons, comme nous l'avions fait déjà à la rentrée, un accueil café croissant dès 9h et puis à 10h un culte intergénérationnel qui touchera bien sûr toutes les générations comme son nom l'indique. Donc venez nombreux. Et puis à la suite de ce culte, le repas communautaire que nous avons d'habitude le premier dimanche du mois mais que nous avons reporté pour qu'on ait vraiment un grand moment ensemble ce jour-là. Et puis dernier point sur la grande semaine, vous savez qu'on accueille la grande semaine, c'est un moment qui est organisé par Kids Genève. Vous avez peut-être déjà entendu parler des Kids Games durant l'été, et puis ils refont une petite session en automne pendant les vacances d'octobre. On les accueille ici. Vous avez la possibilité d'inscrire vos enfants. Vous avez quelques flyers à la sortie. Merci beaucoup.
Merci. Je vous invite à la prière. Cher Seigneur, nous nous présentons devant toi, plus ou moins conscients que tu es le grand Dieu de l'univers, plus ou moins conscients que tu es notre Père ou que tu veux le devenir, plus ou moins conscients de ta sainteté. Nous sommes humains, humaines,
parfait, imparfaite. Et nous voulons nous placer sous le signe de ta grâce, radicale, ample, généreuse. Tourner vers toi nos regards pour te louer, t'adorer. Ouvrir nos cœurs à ta parole, à ton esprit. Nous poser, nous reposer en toi qui est notre repos. Fais-nous cette grâce d'entrer dans ce culte, de le vivre pour l'honneur de ton nom. Et nous voulons aussi le vivre en étant conscients de nos privilèges et en nous souvenant de celles et ceux qui ne les ont pas. Nous voulons penser maintenant à nos frères et sœurs en la foi ou en humanité simplement qui sont jetés sur les chemins de l'exil. On pense en particulier à tout ce peuple du Haut-Karabakh qui fuit un territoire. Seigneur, s'il te plaît, prends soin de tes enfants en exil sur cette terre. Veille sur ton Église comme tu l'as fait jusqu'à ce jour. Fais du bien à celles et ceux qui n'en peuvent plus. Nous voulons maintenant tourner nos regards vers toi, dire que tu es bon pour nous, célébrer tes louanges, nous réjouir de ta présence. Dans le nom de Jésus. Amen.
Nous chantons à l'agneau de Dieu. Élevé à la droite de Dieu, couronné de mille couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône, à l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles.
Et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens Jésus, toi l'époux bien-aimé, tous les élus ne cessent de chanter.
L'agneau de Dieu, sois la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, sois le règne pour tous les siècles. D'un seul cœur, avec les milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. la victoire à l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Je lis le psaume 121. Je regarde vers les montagnes, qui viendra me secourir ? Pour moi, le secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Qu'il te préserve des faux pas, qu'il te garde sans se relâcher. Voici, il ne somnole pas, il ne dort pas, celui qui garde Israël. Le Seigneur est celui qui te garde. Le Seigneur est une ombre protectrice à tes côtés. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur préservera ta vie, il te gardera de tout mal. Oui, le Seigneur te gardera de ton départ jusqu'à ton retour, dès maintenant et toujours. Chantons « Mon secours est en toi ». Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi.
Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi.
Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul es mon Dieu, je proclame. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire,
ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut. Mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut. Mon refuge, tout est en toi.
Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul es mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul es ma force. Toi seul me restaure mon secours. Maintenant, un chant pour les enfants. Si j'étais un papillon. Si j'étais un papillon.
Si j'étais un papillon. Avec mes ailes, je louerais ton nom.
Un oiseau migrateur.
Si j'étais un oiseau migrateur, je chanterais ta gloire, Seigneur.
Un joli poisson.
Si j'étais un joli poisson, je frémirais pour te dire que tu es bon. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus et il vit en moi. Oh, je veux te louer parce que tu m'as fait moi.
Si j'étais un éléphant.
Si j'étais un éléphant, ma trompe bénirait l'Éternel.
Un kangourou.
Si j'étais un kangourou, je sauterai jusqu'au ciel.
Wistiti.
Si j'étais un Wistiti, je serais content d'être aussi joli. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus et il vit en moi. Oh, je veux te louer parce que tu m'as fait moi.
Si j'étais un petit ver.
Si j'étais un petit ver, je me tortillerais dans la terre.
Un caïman.
Si j'étais un caïman, je sourirais de toutes mes dents.
Un gros ours velu.
Si j'étais un gros ours velu, je dirais merci pour mon manteau poilu. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait moi.
Tu m'as donné.
Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus et il vit en moi. Oh, je veux te louer parce que tu m'as fait moi.
Tu m'as donné.
Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus et il est en moi. Oh, je veux te louer parce que tu m'as fait moi.
Prenez place, les enfants. On a envie de louer Dieu parce qu'il vous a fait vous. Vous, chacun d'entre vous, les plus petits comme les plus grands, comme ceux qui sont enfants depuis un peu plus longtemps, on veut dire merci au Seigneur. Parce que vous êtes précieux pour nous, parce que vous faites du bien dans son Église. Et ce qu'on a envie pour vous les enfants, c'est qu'un jour aussi, si ce n'est pas déjà fait, Jésus vienne habiter en vous.
ça sera la plus belle aventure de votre vie. J'aimerais prier pour les potes et leur mono. Te remercie, Seigneur, on te loue, comme le dit ce chant, pour celles et ceux que tu as fait comme ils sont. Merci pour ces enfants. Ils nous sont précieux, ils te sont précieux. Et nous aimerions tellement qu'ils engagent leur vie avec toi comme toi tu veux l'engager avec eux. Permets que ce temps avec les potes ce matin y contribue aussi. Je te remercie pour Claire et Jennifer qui vont s'en occuper. Je te prie de les encourager, de leur donner de la joie aussi dans ce service-là. Dans le nom de Jésus, amen. Amen. Les enfants, c'est à vous. Les potes aussi, pour les 11-15. C'est juste. Alors voilà, on vous laisse y aller. Merci au mono des potes et du caté du dimanche. Nouvelle équipe avec Rebecca, Mélina et Elliot. Et j'en profite encore pour vous dire que tout à l'heure, à la fin du culte, et désormais, Dieu voulant, tous les dimanches, nous aurons une petite équipe prière pour accompagner celles et ceux qui ont envie, besoin d'échanger, de partager. On a remis ça en place, petite équipe de prière qui se tiendra à l'avant à l'issue du culte pour celles et ceux qui souhaiteraient prier. Nous allons prendre encore un chant, un souffle nouveau avant que Valérie nous conduise dans quelques mots de présentation, puis la prédication. Un souffle nouveau.
Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau.
Je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie.
un souffle nouveau. 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 Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi. Et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau.
Bonjour à chacune, à chacun, vous m'entendez bien? Merci à la louange pour le papillon, ça fait 40 ans que je n'avais pas chanté le papillon, ça nous rajeunit. Hein, c'était... Moi je faisais les gestes aussi, hein, le voilà, mais c'est... merci beaucoup. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à l'église évangélique de Mérin ». Vous connaissez ce psaume? Moi il est dans ma Bible, hein. Très beau psaume. Merci, merci à votre pasteur Philippe de m'avoir donné la joie de vous rencontrer. Et vraiment ce parfum de bonne odeur de votre communauté depuis hier, de découvrir vraiment ce que vous vivez ici sur Mérin, c'est moi qui me sens privilégiée, donc merci, merci beaucoup. Voilà, je m'appelle Valérie Duval-Poujol, mon accent me trahit, hein, je suis française. Je peux rester? Ça va? Je viens de Bordeaux, mon mari est pasteur, et d'ailleurs il vous salue bien aussi. Et donc moi je suis théologienne évangélique, traductrice de la Bible, c'est pour ça que hier on a abordé cette question. Je suis aussi très engagée en œcuménisme, ce gros mot pour dire les relations entre frères et sœurs. Et puis aussi très engagée sur les violences faites aux femmes, et on aura l'occasion d'en reparler. Alors ce matin, vous avez vos Bibles avec vous? Ce matin, je vous propose d'évoquer une rencontre entre deux chrétiens que tout séparait. Et pourtant, grâce à un cheminement guidé par l'Esprit, ils vont savoir se reconnaître comme frères en Christ. Pierre et Corneille. Cette histoire se trouve en Actes 10. Alors il faudrait relire tout le chapitre, mais il est assez long. Il y a un café, j'ai compris, après, donc on va pas... Ah voilà, mais je vous invite cette semaine à le relire chez vous, tout ce chapitre. Nous, ce matin, je vais faire des zooms, et puis on va en lire une partie, un extrait. Donc j'invite pour qu'on puisse faire cette lecture. Elle est où, Anne? Voilà. Oh, voilà, à toi.
Voilà, donc acte 10, les versets 19 à 23. Pierre était encore en train de réfléchir au sujet de la vision quand l'Esprit lui dit « Écoute, il y a ici trois hommes qui te cherchent. Debout, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit auprès de ces hommes et leur dit « Je suis celui que vous cherchez. Pourquoi êtes-vous venu ?» Ils répondirent, « Nous venons de la part du centurion Corneille. C'est un homme droit qui reconnaît l'autorité de Dieu et que tous les Juifs estiment. Un ange de Dieu lui a recommandé de te faire venir chez lui pour écouter ce que tu as à lui dire. » Pierre les fit entrer et les logea pour la nuit. Je lis ensuite les versets 44 à 48. Pendant que Pierre parlait encore, l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient son discours. Les croyants d'origine juive qui étaient venus avec Pierre
furent stupéfaits de constater que l'Esprit Saint, donné par Dieu, se répandait aussi sur ceux qui ne sont pas juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue inconnue et louer la grandeur de Dieu. Pierre dit alors, « Pourrait-on empêcher ces gens d'être baptisés d'eau, maintenant qu'ils ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous ?» Et il ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux.
Merci, je nous invite à la prière. Seigneur, ta parole est nourriture et nous voulons être nourris ce matin. Nous voulons t'écouter, nous ouvrons nos cœurs, nos oreilles, notre intelligence. Nous voulons faire ta volonté. Viens par ton esprit nous éclairer. Amen. Ce chapitre 10 des Actes nous relate un voyage. Non pas tant géographique avec des kilomètres avalés comme il y en a beaucoup dans le livre des Actes. Non, un voyage spirituel, un cheminement de l'âme qu'a expérimenté Pierre. Le voyage par-delà nos frontières personnelles, vers l'autre, vers les autres qui ne me ressemblent pas, mais qui pourtant me sont donnés comme frères et sœurs en Christ. Un voyage vers la communion fraternelle. C'est l'expérience de Pierre avec Corneille dans le passage que nous avons lu. On appelle souvent ce passage la Pentecôte des païens. Mais nous allons voir que c'est pour chacun de nous, à l'image de ce qu'a vécu Pierre, une invitation à davantage s'accueillir les uns les autres et approfondir la communion. Ce récit d'Actes 10 marque une des étapes les plus cruciales dans l'expansion du christianisme, l'ouverture aux non-juifs. Sans cet épisode, peut-être nous ne serions pas là ce matin. La bonne nouvelle est pour tous. Or Dieu va avoir du mal à convaincre Pierre, Pierre converti d'origine juive, que Corneille, centurion romain, officier païen de l'armée d'occupation, est bel et bien, après sa conversion, sans avoir été circoncis, sans avoir connu Jésus dans la chair, un frère dans la foi, malgré toutes leurs différences. Pour convaincre Pierre, pour qu'il quitte ses discriminations, Dieu doit s'y reprendre à plusieurs fois, en plusieurs étapes. Il y a d'abord la vision de la nappe. C'est juste avant le passage que nous avons lu et que vous retrouverez donc à partir du verset 9. Sur l'heure de midi, pendant que Pierre prie alors qu'il a faim, il a une vision d'une espèce de nappe avec toutes sortes d'animaux. Dieu demande alors par trois fois, non pas une, non pas deux, trois, par trois fois à Pierre de manger des mets impurs pour lui signifier la fin de la séparation entre pur et impur, apprise dans son éducation. La vision concernait la nourriture, mais Pierre allait apprendre qu'il s'agissait d'abolir ces discriminations, pas qu'envers la nourriture. Sans doute a-t-il pu alors se remémorer des paroles et gestes de Jésus qui lui-même avait aboli des frontières, qui lui-même avait fait tomber des murs de division, les murs traditionnels de son vivant. Souvenez-vous comment Jésus a aboli les frontières en parlant aux exclus, qu'il s'agisse des femmes, comme avec Marthe, avec Marie de Magdala, qu'il s'agisse des Samaritains, alors que Juifs et Samaritains étaient ennemis, qu'il s'agisse d'une femme samaritaine, la pauvre elle cumule, hein, voyez, femme samaritaine, elle cumule les raisons d'être ostracisée, qu'il s'agisse d'enfants, ceux qu'il a bénis en les prenant sur ses genoux, qu'il s'agisse de lépreux que personne ne voulait approcher. Les murs de division, de discrimination, de séparation de sa société. Jésus a vécu, incarné, ce que Paul va ensuite résumer, décrire en Éphésiens 2, 14. Le Christ lui-même a abattu le mur qui les séparait et en faisait des ennemis. Ce mur de séparation qu'est la haine, Jésus a montré à Pierre par son vécu et surtout par sa mort sur la croix, qu'il ne devait plus être ce mur. Mais il faut du temps à Pierre pour l'intégrer. Pierre fait encore des discriminations, eux et nous. À propos du mur de séparation, j'ai toujours été choquée par cette anecdote de Gandhi, qui rapporte lui-même cette histoire. Il est en stage en Afrique du Sud, à l'époque de la ségrégation, et il est en recherche spirituelle, il veut en savoir plus sur le christianisme. Et Gandhi se rend un dimanche matin au culte, à l'église. Et là, quand on ouvre la porte, on lui dit « Ah non, pour les gens comme vous, c'est l'autre église là-bas. » Ça en a été fini de sa quête spirituelle. La discrimination, les murs de séparation. En tout cas, après cette vision de la nappe, Pierre est encore en train de se demander ce qu'elle signifie. Le message n'est pas encore bien net, bien décodé. À ce moment-là, Dieu l'avertit de la visite des émissaires de Corneille. Il faut l'intervention de l'Esprit, vous avez noté, pour qu'ils descendent, pour qu'il aille les voir. Et Dieu de leur assurer, part avec eux sans hésiter, au verset 20, sans scrupule. Le grec nous dit ici, sans faire de discrimination. Ce qui veut dire que Pierre était encore en train d'en faire. Il accepte alors de se rendre chez Corneille, un non-juif. Mais à son arrivée, il rappelle à l'auditoire bien nombreux, « Ah, vous êtes nombreux !» Il aurait préféré un tout petit groupe, en catimini, vous voyez, ça aurait été bien mieux. Un tout petit groupe, un tout petit comité. Il va leur redire combien la situation est délicate pour lui, au verset 28. « Comme vous le savez, et si vous ne le savez pas, je vous le rappelle, c'est ça que ça veut dire, comme vous le savez, c'est un crime. » Et le mot employé en grec, ça veut dire « contraire à la loi, tabou ». C'est un crime de fréquenter un étranger ou d'entrer dans sa maison. Mais Dieu, poursuit-il, m'a montré que je ne devais considérer personne comme impur ou indigne d'être fréquenté. Pierre a fait du chemin, vous mesurez ? Pierre a fait du chemin. Il est en route vers l'acceptation de l'autre comme différent. En tout cas, il est d'accord sur le principe. Oui, il faut s'ouvrir. Mais le comment ? Comment cela va-t-il se passer? Comment aller plus loin? Il est sur la réserve et attend de voir venir. Et là, il écoute le témoignage de Corneille, de ce que Dieu a fait dans sa vie, la vision que Dieu lui a adressée. Et c'est là que Pierre comprend et déclare, versets 34-36, « Je comprends vraiment que Dieu n'avantage personne. Son message est la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ. » Jésus-Christ le Seigneur pour tous les êtres humains. Et le tout premier fruit de cette belle prise de conscience, alors que Pierre n'a même pas encore fini son discours, c'est que Dieu envoie l'effusion de l'Esprit sur Corneille et tous les gens présents, telle une nouvelle Pentecôte sur les païens. Comme Pierre va expliquer plus tard, acte 11, si Dieu a fait à ces gens le même don gracieux qu'à nous autres pour avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, étais-je quelqu'un à moi pour empêcher Dieu d'agir ? Pierre reconnaît que Dieu est à l'œuvre, non seulement dans sa chapelle, sa paroisse, sa dénomination, son ethnie, mais aussi chez les autres qui ne lui ressemblent pas, chez des païens qui eux aussi rencontrent Jésus. Il y avait déjà eu une expérience, on lit dans les actes, avec les Samaritains, mais là Dieu pousse le bouchon plus loin, avec des païens. Ils sont vraiment, vraiment différents. Pierre, par cette expérience, a connu une immense transformation et on pourrait dire que cette expérience, c'est son chemin de Damas à lui, une vraie conversion à l'autre. Il y a un indice plus particulier de cette transformation, vous verrez dans le texte, au verset 6, acte 10, 6. Le même verbe « accueillir » est d'abord employé au passif. Pierre est accueilli, il est logé. Et puis ensuite, au verset 23, il est à l'actif, Pierre accueille, loge lui-même les envoyés de Corneille. Ce verbe-là, vous voyez, traduit accueillir, être l'hôte, être logé, c'est xénizo, accueillir l'étranger. Xénizo, le contraire de la xénophobie. Ce verbe résume bien la transformation de Pierre, lui-même accueilli, qui apprend à accueillir l'autre, le différent, l'étranger. Pour comprendre la révolution que ça représente, il n'y a qu'à voir la réaction hostile des apôtres, les frères à Jérusalem, quand ils apprennent ce qui s'est passé. Aujourd'hui, ce serait défoulé sur les réseaux sociaux. Hein. Voilà ce qu'ils disent avec agressivité à Pierre, acte 11, 3. tu es entré chez des gens non circoncis et tu as mangé avec eux. » Pierre s'explique et là, ils vont pouvoir eux aussi à leur tour déclarer « C'est donc vrai, Dieu a donné aussi à ceux qui ne sont pas juifs la possibilité de changer et de recevoir la vraie vie. » Est-ce que vous avez remarqué où est-ce que Pierre a cette vision de la nappe, des animaux impurs? Où est-ce qu'il comprend, dans quelle ville, il comprend qu'il doit aller prêcher aux non-juifs, à ceux qui sont différents? On ne fait pas toujours attention aux détails, mais parfois cette géographie, elle a en fait un vrai sens. Ici, c'est à Joppé, Jaffo, et dans cette même ville, bien des siècles auparavant, un prophète a voulu fuir le même appel de Dieu à aller vers des non-juifs, c'est Jonas. Jonas, c'est en effet à Joppé, Joppé, Jaffo, que Jonas, prophète de l'Ancien Testament, prend le bateau pour Tarsis, car il veut fuir l'appel de Dieu. Il n'est pas d'accord, mais alors pas d'accord du tout, avec le fait d'aller parler aux habitants non-juifs de Ninive. Non mais Ninive. L'analogie des Écritures nous met en parallèle deux appels identiques d'aller vers le différent. Dans la même ville, Joppé, mais avec deux attitudes différentes, Pierre qui l'accepte, après insistance de l'esprit, et Jonas qui l'évite. Serons-nous un Jonas ou un Pierre? Le cheminement de Pierre pour quitter son esprit de discrimination, hérité de son éducation religieuse, y pensait bien faire. Ça ressemble à ce que chacune, chacun d'entre nous devons vivre quand on se convertit au Christ vis-à-vis des frères et des sœurs. Les textes bibliques nous disent que les chrétiens, adoptés par le Père en Jésus-Christ, deviennent à leur conversion frères et sœurs, enfants du même Dieu. Regardez-vous un peu là, tournez la tête. Oui, oui, mes frères, mes sœurs. Bon, c'est pas choisi, hein. Aucun de nous s'est choisi, hein, comme dans une fratrie, d'accord? Comme Pierre, qui aurait sans doute préféré que tous les chrétiens soient comme lui. Des juifs, pieux, de Galilée, avec le même accent, le même dialecte, la même spiritualité, les mêmes rites. Peut-être certains se disent « Ah, si tous les chrétiens nous ressemblaient, ça marcherait mieux ici, l'annonce de l'évangile à Mérin et en Suisse, non ?» Ah, si tous étaient comme nous, de bons évangéliques, ça irait bien mieux. Heureusement, pour nous, Dieu avait d'autres projets pour son Église il y a 2000 ans et encore aujourd'hui. Il a voulu que son Église soit un seul corps, une seule tête, mais de multiples membres du corps très différents. Dans le Nouveau Testament, il y a un magnifique passage qui décrit cette communion. C'est 1 Corinthiens 12. Vous vous souvenez l'image du corps ? La tête, la main, le pied, etc. Et au verset 24, nous lisons « C'est Dieu lui-même qui a disposé les différents membres du corps. » Le verbe employé ici pour « disposer » en grec est rare dans le Nouveau Testament. Il veut dire « combiner, composer, mélanger, unir ». Au sens figuré, c'est « rassembler, combiner ». Et on l'emploie par exemple pour les couleurs dont se sert un peintre. Sur sa palette, il y a toutes les couleurs. Et il va les combiner, les disposer, les mélanger pour créer une harmonie. Rendons grâce à Dieu pour la couleur que représente chacune des églises, des œuvres chrétiennes, ici à Mérin, en Suisse, dans ce monde. Autant de belles couleurs sur la palette divine, des protestants, des catholiques, des orthodoxes, des évangéliques, de toute culture, et même des Français. Nous avons besoin de la couleur de chacun, le rouge du zèle missionnaire, de l'évangélisation, le bleu de l'entraide sociale, le vert de la louange, de l'adoration, de la contemplation, le jaune de l'unité avec les autres chrétiens, le violet de l'enracinement, de la fidélité au travers des siècles, etc. Dieu a donné les couleurs nécessaires pour que la bonne nouvelle de l'évangile soit annoncé à toutes et tous, ici, à Mérin et jusqu'aux extrémités de la terre. À nous d'accepter la palette divine du peintre divin qui a voulu chacune de ces couleurs. Comme il y avait 12 pierres précieuses, très différentes sur le pectoral, du grand prêtre. Chaque église représente une pierre précieuse à l'éclat particulier et nous avons besoin de chacune. Bon, ça c'est la théorie et le principe, mais comment ? Comment ? Comment vivre cette communion ? Comment être membre du même corps ? Comment être des membres et non des morceaux ? Vous avez noté ? C'est pas du tout la même chose. Je suis membre du corps ou je suis morceau ? C'est quoi la différence entre un membre et un morceau ? Eh ben, les membres, ils sont rattachés les uns aux autres. Ils sont rattachés à la tête, ils en dépendent, alors que les morceaux sont détachés des autres. C'est toute la beauté de la prière que notre Seigneur nous a laissée, notre Père. Et nous en avons parlé hier dans cette belle journée avec les autres chrétiens de Mérin. Quand on dit la prière que Jésus nous a laissée, on devrait presque faire une pause après ces deux premiers mots. Nous on enchaîne, notre Père qui est aux cieux. On devrait s'arrêter après notre Père pour regarder autour de nous et dire « Ah donc on a bien tous le même Père ?» Ça veut dire que tu es mon frère, que tu es ma sœur, même si je ne t'ai pas choisi. Et on devrait s'émerveiller que ça nous a donné des frères et sœurs, ce notre Père. Alors ça ne veut pas du tout dire qu'on est d'accord sur tout avec tout le monde. On a des différences aussi, et si on les croit, c'est parce qu'on pense qu'elles sont bibliques. Il y a des différences importantes qui demeurent entre confessions. Mais on sait que ce qui nous unit, l'amour du Christ est plus important, plus fort que ceux qui nous divisent, ceux qui nous séparent encore. Et d'ailleurs, dans les pays persécutés, les assassins de chrétiens ne font aucune différence confessionnelle. On appelle ça l'œcuménisme de sang. Alors revenons à Pierre et Corneille, car l'histoire ne s'arrête pas là. Pierre va connaître une rechute. Aïe, aïe, aïe. Nous lisons l'histoire de cette rechute sous la plume de Paul en Galates 2. Paul raconte comment, à Antioche, Pierre, par peur de ce que les gens de Jérusalem, d'autres juifs avec qui il avait grandi, penseraient, Pierre n'ose plus partager un repas avec les païens. Il n'ose plus à nouveau manger avec eux. Rechute. Paul précise que Pierre s'est remis à agir avec discrimination quand des gens envoyés par Jacques, le frère du Seigneur à la tête de l'église de Jérusalem, arrivèrent, donc sans doute des mandatés de Jérusalem. Ils sont l'image de l'establishment, de nos structures, de nos matrices, celles et ceux avec qui on a grandi et qui peuvent nous freiner dans l'ouverture à l'autre. Personnellement, comme évangélique très engagé en œcuménisme, qui a vu le pape plusieurs fois, qui va à Rome pour parler d'unité, ou comme traductrice de la Bible, qui travaille avec des chrétiens de toute confession pour traduire ensemble. Combien de fois j'ai entendu des critiques sur cette ouverture ? Mais tu vas finir catholique, tu vas finir réformé, tu vas finir pentecôtiste, tu vas finir à force de les fréquenter. Pierre a eu besoin d'être fortifié, encouragé dans sa nouvelle compréhension de la communion. La conviction que nous ne sommes pas les seuls à détenir la vérité, que les frères et sœurs différents de moi sont eux aussi le fruit de la grâce, de l'œuvre divine. Ça n'est pas tout de suite chez Pierre ou chez moi un roc inébranlable. C'est plutôt une plante qu'il faut arroser, protéger, enlever les mauvaises herbes pour qu'elle continue à grandir. Parce que l'environnement est parfois un frein pour cette ouverture, comme ce fut le cas pour Pierre avec ceux de Jérusalem. Une rechute est toujours possible. Restons vigilants, encourageons-nous les uns les autres, comme Paul a osé le faire avec Pierre. L'un des obstacles à l'unité entre nous, c'est nos préjugés. On se dit que l'autre, avec ses pratiques différentes des nôtres, dans sa louange, dans sa manière de célébrer les sacrements, il n'est pas tout à fait chrétien comme il faut. Il lui manque quelque chose, ou alors il a des choses en plus, il a des choses en trop. Mais ce n'est pas nous qui choisissons les autres membres de la famille. Donc comment dépasser nos préjugés ? Comment accueillir des corneilles quand nous sommes des pierres ? Comment oser rencontrer des pierres quand nous sommes des corneilles ? Vous avez sans doute vous-même des pistes, des outils. Je trouve intéressant que le texte nous en propose un, c'est l'écoute du témoignage de foi. Et cette idée, simple, mais efficace, l'écoute du témoignage, elle a été reprise comme pédagogie par le Forum chrétien mondial. C'est une initiative du Conseil œcuménique des Églises. Ce forum a pour but de permettre à des chrétiens de confessions très différentes de se rencontrer et de se reconnaître comme frères et sœurs, surtout ceux qui ne se sont jamais parlé. Et la méthodologie, lorsqu'ils se retrouvent, on commence chaque session par répondre à deux questions. Comment ai-je rencontré Jésus ? Qu'est-ce que cela change dans ma vie ? Comment j'ai rencontré Jésus et qu'est-ce que ça change dans ma vie ? Et les échanges autour de ces questions ont permis à des pasteurs pentecôtistes, des archevêques catholiques, des théologiens mennonites, évangéliques, réformés, orthodoxes, anglicans, luthériens, tout le christianisme, de se reconnaître, au-delà de leur étiquette, comme frères et sœurs, comme Pierre et Corneille, il y a 2000 ans. Ce forum, il a lieu au niveau mondial, national et puis régional. Réjouissons-nous du premier forum chrétien suisse roman qui s'est tenu à Lézin en 21 et le premier forum chrétien vaudois, je peux dire ces mots-là, hein, ça va, hein, qui s'est réuni à la HET Pro à Saint-Légier en 2023. Réjouissons-nous de ces initiatives. Et pour nous, chacun dans notre vie au quotidien, une des manières de vivre l'accueil les uns des autres, dont parlent ici Pierre et Paul, c'est d'écouter nos témoignages de conversion, nos itinéraires de vie les uns les autres. Vous allez voir que ça va changer votre regard sur celle qui est assise à côté de vous, là, au culte le dimanche, votre voisin, votre voisine. Ça va vous aider à reconnaître l'œuvre du même esprit. Qu'est-ce que nous connaissons de l'œuvre de Dieu dans la vie de notre voisin de culte, de notre pasteur, de nos collaborateurs, de membres de notre famille ? Nous entretenons-nous de ce que nous vivons dans la prière, dans la louange ? Quel est le chant qui te porte, le verset que tu as lu ? Qu'est-ce que tu as lu cette semaine ? Et toi, ta conversion, comment tu as rencontré le Seigneur ? Et au-delà de cette église, est-ce que nous osons aussi cette discussion avec d'autres ? Et nous avons besoin de faire cela, d'élargir l'espace de notre tente, parce que c'est ensemble, les chrétiens de toute chapelle, que nous pourrons relever les nombreux défis de ce monde qu'on ne peut pas chacun relever tout seul. On en a évoqué quelques-uns dans la prière. La crise climatique, la guerre en Ukraine ou au Haut-Karabakh, la lutte contre les violences faites aux femmes, en particulier les violences conjugales qui ont lieu aussi dans nos églises. Dans les mois qui viennent, qui vais-je aller mieux connaître ? De qui vais-je écouter le témoignage ? Quelle église de ma ville avec qui je n'ai pas encore de relation ? Dans ma famille, dans mes connaissances, comment vais-je parler ou écouter un itinéraire de vie, de foi ? Écouter ce que Dieu fait dans leur vie ? Quel mur de séparation existe-t-il encore dans ma propre église ou avec d'autres qu'il faudrait abolir ? L'expérience de Pierre, depuis son appel à quitter sa matrice jusqu'à sa rencontre avec Corneille et sa rechute à Antioche, c'est un encouragement pour nous. Un encouragement à poursuivre notre route vers la rencontre des autres. Oser modifier certaines fausses croyances toxiques qui nous empêchent de vivre réellement la communion. Alors pour finir ce temps ensemble de prédication, votre pasteur Philippe m'a demandé d'évoquer aussi quelques-unes des bonnes nouvelles en œcuménisme aujourd'hui, pour qu'on puisse rendre grâce à Dieu aussi et être au courant des choses qui bougent. Je vous ai évoqué ce forum chrétien mondial, ça c'est vraiment réjouissant, mais il y en a tellement d'autres, je voudrais en citer juste deux ou trois. Vous avez peut-être vu pendant les JMJ, les jeunesses mondiales, du coup les journées de la jeunesse au Portugal, toute une soirée organisée par un pasteur évangélique, 55 000 de ces jeunes catholiques qui sont venus assister à cette soirée de louange organisée par un pasteur évangélique, en pleine JMJ. Incroyable, un stade entier. Et ils ont loué ensemble le Seigneur. Voilà, et ça, c'était vraiment en regardant Jésus et en louant ensemble. C'était, la soirée s'appelait The Change, le changement. Une soirée de louange, de témoignage. Ça, c'était formidable. Vous avez aussi la lutte ensemble contre les fléaux de nos jours. Je pense à la justice climatique, la création du label Éco-Église en Suisse, qui rassemble des églises, des communautés. Il y a le soutien aux migrants avec les couloirs humanitaires, où on favorise pour des personnes, par exemple, malades, handicapées, enceintes, on leur permet un pont en avion jusqu'à nos pays. Et là, les églises les accueillent, mais le gouvernement permet, du coup, leur donne les papiers nécessaires pour quitter la Syrie, la Libye, et éviter ce cimetière, ce mouroir qui est ici, la Méditerranée. Je pense à la collaboration biblique qu'on a évoquée hier, les traductions ensemble de la Bible, comme la Nouvelle Français Courant, par exemple, où on avait vraiment toute la diversité du christianisme ici. Il y a eu aussi, pendant le confinement, le projet de la Bible manuscrite, où on a demandé à 500 copistes de toutes les dénominations d'écrire, de recopier un chapitre du Nouveau Testament, des psaumes, et qu'on a réunis pour montrer aussi notre unité, si vous voulez. Et puis hier soir, on a vécu un événement historique, alors oui, notre rencontre à Mérin, mais aussi à Rome. C'était le lancement du synode sur la synodalité de l'Église catholique. Ils sont en train de réfléchir à leur réforme interne. Et le pape a souhaité que ce synode commence par une célébration œcuménique. Il avait invité les chefs de toutes les églises, luthériennes, réformées, baptistes, orthodoxes, anglicanes. Et ils étaient assis à côté de lui, devant Saint-Pierre. Ils ont prié ensemble. Et la bénédiction finale, c'était eux tous, ensemble, qui bénissaient du coup. Et ça, c'est inédit, ça ne s'est jamais produit. Et ce n'était pas du tout un retour à Rome, c'était vraiment plutôt, je suis un parmi d'autres, et je sais que pour vivre l'Église ensemble, c'est ce qu'il a dit, la synodalité, pour vivre l'Église ensemble, pour réfléchir aux réformes de notre Église, on a besoin des autres Églises. Et ça, du coup, c'était un moment vraiment très très fort ici, dont on peut seulement se réjouir. Voilà, tous ces projets, il y en aurait beaucoup d'autres ici. Peut-être un aussi très récent, ça a été la visite dans une église évangélique en Suisse, à Mérin, et de voir aussi tout le travail et l'ouverture œcuménique qu'ils avaient. Et j'en serai ambassadeur ailleurs, ambassadrice ailleurs, parce que ce que vous vivez ici est vraiment aussi un parfum de bonne odeur. Donc finalement, vous voyez, nous sommes chacun, chacune, encouragés à poursuivre dans ce même esprit que celui de la rencontre entre Pierre et Corneille. Et je voudrais conclure avec ces paroles de Paul, à nouveau en 1 Corinthiens 12, ce chapitre sur le corps. Vous êtes le corps de Christ, et chacun de vous, chacune de vous, est une partie de ce corps. Amen.
Nous allons entrer dans un temps pour nous souvenir de la vie donnée par Jésus, pour que nous puissions être sauvés de nos péchés, de la condamnation, de la séparation avec Dieu et rassembler un corps qui lui appartient, son Église. Je vous invite à vous lever pour chanter ce chant « Attaché à la croix pour moi ».
Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Auquel prix pour me rendre heureux, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent, pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, le salut accompli pour ses frères, mon sauveur se rendit au ciel. Il revient au profond mystère, mon bonheur sera éternel. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris. Attaché à la croix pour moi.
Pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir prononcé une prière de bénédiction, il le partagea et le donna à ses disciples. Il leur dit : prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe de vin et après avoir remercié Dieu, il la leur donna et ils en burent. Jésus leur dit : ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu qui est versé pour une multitude de gens. Je vous le déclare, c'est la vérité. Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le règne de Dieu. Ils chantèrent ensuite les psaumes de la fête, puis ils s'en allèrent au mont des Oliviers. Le Seigneur institue ce repas tout en simplicité d'éléments, tout en richesse de sens, pour les générations qui viendront aussi, nous en sommes. Le mur de séparation a été démoli. Nous sommes frères et sœurs, grâce au sang de Jésus. Et nous voulons aussi nous en souvenir ce matin, tout simplement, en prenant un peu de vin, en prenant un peu de pain. Je vous invite à profiter de ce repas, si votre conscience vous le permet. N'hésitez pas sinon à la remettre d'aplomb en priant Dieu. Mais profitons ensemble de ce temps de souvenir et de projection, parce que viendra le jour où nous le prendrons nouveau avec lui au ciel.
Nous prions ensemble. Nous voici invités à ta table, Seigneur.
Ouvre notre intelligence, notre cœur, notre corps à toi, à ta présence. Tu es vraiment mort et ressuscité pour moi, pour mes frères et sœurs. Et nous voulons nous souvenir de ce que tu as accompli pour chacun, chacune d'entre nous. Nous te rendons grâce pour l'unité de ton corps, comme ces épis de blé épars réunis en un seul pain, comme ces grains de raisin épars réunis en une seule coupe. Tu nous réunis en un seul corps. Tu es toi la tête de l'Église. Nous voulons rendre grâce pour les frères et sœurs que tu nous as donnés, ici, au loin, bien au-delà de nos murs, de nos séparations. Nous les bénissons et nous nous réjouissons du jour où ensemble, avec toi, nous serons réunis pour le festin céleste. Amen.
Ce repas, il a été préparé pour que nous le prenions. J'invite les trois personnes sollicitées à bien vouloir s'approcher. Je précise juste qu'à défaut de jus de raisin, ce matin, il y a au centre du sirop de grenadine. Alors ça a la même couleur, sentez-vous libre. Et puis tout autour, comme d'habitude, le vin. Il y a également une coupe. Si quelqu'un souhaite boire à la coupe, faites-moi juste signe et je m'approcherai de vous.
S'approche plus avec le micro, il y a des capteurs, mais n'hésitez pas à prier à haute voix.
Seigneur, parce que ta croix a renversé toutes les barrières, toutes les séparations, et fait de nous, tes enfants, dans la grâce et la liberté que tu nous donnes par cette même croix, celle de Jésus, mort et ressuscité pour nous. Seigneur, augmente notre liberté. Renouvelle, Seigneur, cette unité nouvelle qui renverse toutes les barrières que nous avons consciemment ou inconsciemment dressées contre l'autre. Seigneur, nous avons besoin de toi pour cette transformation. Nous avons besoin de toi pour ce miracle.
Je vous invite à vous lever pour dire ensemble la prière que le Seigneur Jésus nous a laissée. Claude.
On peut faire un temps de pause après notre Père.
Mais bien vu. Merci, je vois que tu as écouté attentivement, ça fait plaisir. Merci Claude. On va faire comme ça. Un temps de pause, mais nous disons ensemble la prière que le Seigneur nous a laissée. Notre Père, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et nous restons debout pour un dernier chant avant la bénédiction, le chant J'irai. Et puis c'est Valérie qui viendra nous envoyer dans la nouvelle semaine.
Montre-moi la voie. Tu voudras, j'irai. Si tu ouvres la porte, c'est qu'on ne peut fermer. Si tu es là, j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds.
Montre-moi, montre-moi. Si tu ouvres la porte, c'est qu'on ne peut fermer. Si tu es là, j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds.
Nous restons debout et pour cette bénédiction, je vous propose une prière pour l'unité attribuée à Martin Luther King. Dieu éternel et miséricordieux, toi qui es un Dieu de paix, d'amour, d'unité, nous te prions, Père, et nous te supplions de rassembler par ton Esprit Saint tout ce qui s'est dispersé, de réunir et de reconstituer tout ce qui s'est divisé. Veuille aussi nous accorder de nous convertir à ton unité, de rechercher ton unique et éternelle vérité et de nous abstenir de toute dissension. Ainsi, nous n'aurons plus qu'un seul cœur, une seule volonté, une seule science, un seul esprit, une seule raison, et tournés tout entier vers Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous pourrons, Père, te louer d'une seule bouche et te rendre grâce par notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Esprit Saint. Seigneur, nous te remettons cette semaine. Tu nous éclaires par ton Esprit, tu nous protèges, tu nous accompagnes, les yeux fixés sur toi. Amen.
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 Merci Valérie. Bon dimanche à chacun, chacune. N'oubliez pas le café, profitez de faire connaissance. Vous êtes les bienvenus.